Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu, Douys en tête. Douys, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Ce 13 janvier 2013, l'ambiance est tendue dans les salons de l'hôtel Four Seasons d'Austin, au Texas. C'est là que Lance Armstrong a donné rendez-vous à la reine du talk-show américain, la célèbre Oprah Winfrey, pour une interview qui s'annonce explosive. Pendant que les techniciens s'affairent, le septuple vainqueur du Tour de France, visage fermé et mâchoire serrée, débarque dans le studio. Le champion, vénéré par toute l'Amérique, est conscient que les mots qu'il s'apprête à prononcer vont probablement changer sa vie.
Je veux juste que vous me répondiez par oui ou non. Oui ou non, avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances? Oui ou non, avez-vous pris de l'OPO?
Yes or no.
In all seven, oui ou non, avez-vous pris des produits interdits lors de chacune de vos 7 victoires dans le Tour de France?
Yes.
In your opinion, was it humanly, à votre avis, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans vous doper 7 fois d'affilée?
Not in my opinion.
Et durant 2h30, le Texan passe à confesse, répondant aux 112 questions préparées par Oprah. Un acte de contrition douloureux pour Armstrong qui, en 14 ans de carrière, avait toujours nié jusque-là, avec force, les accusations dont il était l'objet. Mais cette fois-ci, acculé dans les cordes par les confessions de ses anciens équipiers et les enquêtes des instances américaines, le Texan ne peut plus tenir sa position. L'empire va s'écrouler. Un choc pour les Américains, fan absolu de cet athlète hors norme. Lui, le petit gars du Texas, élevé modestement par sa mère, parti de tout en bas, pour gagner les sommets du sport mondial. C'est en 93, à Oslo, en Norvège, que le cycliste américain, formé à l'école du triathlon, marque les esprits pour la première fois. Ce jour-là, il s'empare du titre de champion du monde devant tous les cadors du peloton, à commencer par Miguel Indurain, battu par la fougue et la force des 22 ans du jeune coureur US.
Lance Armstrong qui va s'imposer, merveilleuse victoire, il embrasse tout le monde, il embrasse la terre entière, il est heureux Lance Armstrong, quelle splendide victoire.
À 22 ans, Lance revêt le maillot arc-en-ciel, la fusée Armstrong est désormais sur orbite et l'Américain rêve en grand. Lui, le rouleur sprinter, se voit bien triompher sur toutes les classiques. Mais son année en arc-en-ciel ne va pas se dérouler comme prévu, non. Au sein d'un peloton qui découvre le PO, Armstrong, encore peu informé des effets stupéfiants de ce produit, va prendre tôle sur tôle. Après avoir gagné les championnats du monde en 93, j'ai passé toute l'année suivante, maillot arc-en-ciel sur le dos, à me faire botter les fesses dans chaque course. À l'époque, on bricolait déjà un peu à faible niveau avec des cortisones. Mais l'OPO, c'était d'un tout autre niveau. Les avantages de la performance étaient si grands qu'on est passé de l'essence ordinaire à un carburant de fusée. Et il a donc fallu que je prenne une décision. Sa décision est prise, il lui faut un carburant plus puissant et qui mieux que le sulfureux Dr Ferrari pour lui concocter un protocole. Lance demande alors à son ami, Eddie Merckx, de lui présenter le médecin italien, adepte des cocktails survitaminés. Les résultats ne se font pas attendre bien longtemps. Dès la saison suivante, Armstrong remporte une étape du Tour de France, puis la Classica Saint-Sébastien, avant que la Flèche Wallonne ne s'offre à lui en 96. Il est désormais l'un des meilleurs coureurs du peloton, aidé en cela par la dynamite du Dottore. Mais soudain, fin 96, la dynamique se brise. Alerté par une douleur au bas-ventre, Armstrong décide, avec retard, de consulter un médecin qui ne va pas lui donner de bonnes nouvelles. Le mercredi de octobre, on m'a diagnostiqué un cancer des testicules. Le 3, j'ai été opéré à l'hôpital Saint-David où l'on a retiré la tumeur et l'opération a réussi. En termes de degré de ma maladie, la condition est considérée entre modérée et avancée. J'ai commencé hier mon premier jour de chimiothérapie. Armstrong fait face, mais le pronostic est inquiétant. Des métastases ont déjà atteint ses poumons et son cerveau. Les médecins sont plus que pessimistes. Lance, lui, va considérer sa maladie comme une épreuve à remporter. J'ai vu ma bataille contre le cancer comme une compétition. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais dans mon cas, si je perdais, je mourrais. Alors j'ai vécu avec cette sombre perspective et je m'en suis servi pour tout ce que je fais depuis. J'aime gagner. Mais plus que tout, je ne peux pas supporter l'idée de perdre parce que pour moi, ça équivaut à la mort. Cette bataille, Armstrong va la remporter. En quelques semaines, les tumeurs disparaissent et les cheveux repoussent, tout comme le moral du champion. Sa carrière peut redémarrer. La seule équipe qui s'intéresse alors à lui est une petite formation sponsorisée par la Poste américaine, une équipe dont Armstrong va décider de la composition en engageant de jeunes espoirs américains. Au printemps 98, le Texan, corps transformé et visage émacié, est de retour. Un comeback difficile dans un premier temps. Dès la première étape de Paris-Nice, il abandonne et choisit de ne pas prendre part au Tour 98, celui du scandale de l'affaire Festina.
L'équipe Festina du Tour de France a compté de ce jour.
Mais en fin de saison, les jambes répondent enfin, elles vont faire parler la poudre. Quand je suis revenu à la fin de l'été 98, je me suis fait la promesse de finir chaque course que je débutais. Et j'ai commencé à gagner, à tout gagner. J'ai remporté le Tour du Luxembourg, une grande course en Allemagne, j'ai terminé quatrième du Tour d'Espagne. C'était la première fois que je faisais mes preuves dans une course de trois semaines. Ce fut une surprise pour tout le monde, et moi le premier. Délesté d'une dizaine de kilos, son corps répond mieux dans l'école, d'autant que dès les effets de la maladie estompée, Armstrong a repris sa cure de vitamines sanguines. Dès lors, il est prêt à se mesurer à la plus grande course au monde. Le 3 juillet 1999, il est au départ du prologue du Puy du Fou en Vendée, où il va réaliser une performance de dingue.
Ah, il est bien Armstrong, il est très bien, il va battre le temps, oui.
L'Américain, atteint d'un cancer il y a quelques années, est aujourd'hui revenu au plus haut niveau. En 8 minutes et 2 secondes, il a remporté le prologue ici au Puy du Fou et conquis le premier maillot jaune de sa vie.
La sensation est c'est incroyable. Tous les problèmes avec moi, tous les stories, c'est incroyable.
Deux jours plus tard, il lâche sa précieuse tunique pour mieux la récupérer la semaine suivante à Metz lors du deuxième chrono. Mais c'est le lendemain qu'il épate vraiment la galerie lors de l'étape de Sestrières où l'ancien rouleur sprinter se mue en grimpeur de génie.
Attaque d'Armstrong, ça c'est fort. Alors ça c'est fort. Quelle belle, belle page du tour là. Tout seul Armstrong, il n'a pas besoin d'équipier. Lance Armstrong a fait un numéro exceptionnel là.
Lance Armstrong comes across the line, winner today of the mountain stage of the Tour de France.
Ce jour-là, la salle de presse du Tour de France est partagée entre l'envie d'applaudir Armstrong à tout rompre et celle de le siffler. D'autant que quelques jours plus tard, le journal Le Monde révèle que des traces de corticoïdes ont été détectées chez l'Américain.
Depuis le début du tour, l'Américain a été contrôlé à 10 reprises. Officiellement, tous les résultats sont négatifs. Mais selon Le Monde, paru aujourd'hui, des traces de corticoïdes ont été décelées lors du contrôle antidopage effectué à l'issue de la première étape. Vous confirmez que vous n'avez pas pris de médicaments depuis 1996? C'est la vérité. Vous n'avez pas pris de corticoïdes non plus durant cette période? Je vous le répète, c'est la première fois que j'en entends parler.
Une information que le Texan apprend de la bouche même du président de l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen. C'est apparu dans le test et Verbruggen est venu me dire « Tu dois nous expliquer pourquoi c'est dans ton corps ». Alors les gars ont regardé sur internet à la recherche de ce type de cortico et ils ont trouvé une correspondance avec une crème. Du coup, on a dit que c'était pour soigner une plaie de sel. Pour l'Union cycliste internationale, encore traumatisée par l'affaire Festina, hors de question qu'un nouveau séisme vienne entacher le cyclisme. D'autant qu'avec Armstrong, elle tient là l'homme capable de faire du vélo un sport à dimension internationale. L'histoire est trop belle, une ordonnance antidatée est donc fournie à l'UCI et l'affaire enterrée. Cinq jours plus tard, le Texan, emmené par sa garde bleue, fait une entrée triomphale sur les Champs-Élysées. Le Tour devient sa propriété exclusive. Le soir même, George Bush, qui se prépare à entrer en campagne pour la présidence américaine, prend son téléphone pour féliciter son compatriote texan. Félicitations mon ami, au nom de nous tous au Texas et en Amérique, on est très fiers de toi. Bush et ses compatriotes rayonnent de fierté et de bonheur et ils ne sont pas les seuls. Les médias se précipitent sur le phénomène et les marques lui offrent des contrats en or. Le cyclisme a trouvé son héros, plus rien ne peut l'arrêter. Et durant 7 mois de juillet consécutifs, Armstrong va construire sa légende à coup d'échapper dans l'école, de chute évitée par miracle et de chrono écrasé. Un long règne débute.
Oh là là, c'est le monde à l'envers. Le grimpeur pur qui est distancé par le coureur complet.
Attaque de Lance Armstrong qui vient de lâcher peut-être irrémédiablement Jan Ullrich et Armstrong s'enfuit dans l'Alpe d'Huez. Accélération Armstrong. Armstrong parti pour aller chercher la victoire d'étape ici à la Mangis. Armstrong fidèle au rendez-vous. Voilà, c'est fait. Oh là là, oh là là, la chute de Melocchi, juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain. Une image insensée. Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie. Chute, chute d'Armstrong avec chute, Maillot.
Oui. C'était un spectateur, je pense, qui a fait tomber Armstrong et Maillot.
C'est fou, le Tour de France se joue ici. Armstrong qui chute dans cette montée avec Maillot qui est tombé, Ullrich qui a évité la chute.
C'est le maillot jaune en personne qui lance le sprint. Lance Armstrong qui va déborder Andrés Clonet peut-être. Il est vainqueur Lance Armstrong, son cinquième succès sur ce Tour de France. Voilà, c'est extraordinaire.
Des succès toujours plus incroyables, mais assortis au fil des années de rumeurs tenaces et d'une manière de faire qui dérange. En 2004, celui que l'on surnomme le parrain va même dépasser les bornes lorsqu'il condamne l'échappée de Filippo Simeoni, coupable, à ses yeux, d'avoir témoigné contre son mentor, le docteur Ferrari. Pour se venger, Armstrong rattrape l'Italien et lui tient ses propos terribles.
Il m'a dit « Tu as tout faux. Tu n'aurais pas dû dénoncer le docteur Ferrari et surtout pas moi. » Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai du temps, j'ai de l'argent et je peux te détruire quand je veux.
Et de réintégrer le peloton avec ce geste digne d'un parrain mafieux lorsqu'il porte la main à sa bouche et fait mine de la fermer. Tout cela dans un grand sourire. Oui, Armstrong est un tyran qui écrase les courses, domine ses adversaires et les soumet à l'omerta. Alors au printemps 2005, lorsqu'il annonce que le tour suivant sera sa dernière course, personne ne pleure vraiment dans les chaumières. Au mois de juillet suivant, fidèle à ses habitudes, Armstrong triomphe sur la grande boucle pour la 7e fois, avant de s'adresser sur le podium des Champs-Élysées à ses détracteurs, dont il pense ce jour-là être débarrassé à jamais. Je voudrais dire à ceux qui ne croient pas au cyclisme, aux cyniques et aux sceptiques, je suis désolé pour vous, désolé que vous ne rêviez pas en grand et que vous ne croyez pas aux miracles. Vive le Tour, pour toujours. Ce 24 juillet 2005, Armstrong, désormais retraité, est le plus grand champion que le Tour de France ait connu, plus fort que les Merckx, Sino et tous les autres. Mais bientôt, par péché de vanité, il passera de héros à zéro, de plus grand champion à tricheur maximo, un véritable ascenseur pour l'échafaud.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.